Je suis Captain Zombie, je bois par les oreilles, j'entends avec les 10 doigts, j'ai une langue qui voit tout, un odorat radar qui capte les ondes du cœur humain et un toucher qui perçoit à distance les odeurs. Quant à mon 6e sens, c'est un détecteur de mort. Je sais où sont enterrés nos millions de cadavres, je suis comptable de leurs os, je suis comptable de leur sang, je suis peuplé de cadavres, peuplé de râles, d'agonie, je suis une marée de plaies, de cris, de pus, de caillots, je broute les pâturages de millions de morts miens, je suis berger d'épouvante, je garde un troupeau d'eau noire, ce sont mes moutons, mes bœufs, mes porcs, mes chèvres, mes tigres, mes flèches et mes lances, mes laves et mes cyclones, toute une artillerie noire, à perte de vue qui hurle au cimetière de mon âme. Écoutez, monde blanc, les salves de nos morts. Écoutez ma voix de zombie, en l'honneur de nos morts. Écoutez, monde blanc, mon typhon de bête fauve, mon sang déchirant ma tristesse sur tous les chemins du monde. Écoutez, monde blanc. René Dépestre, Captain Zombie, 1967.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang Canton, mon invité d'aujourd'hui dans les mots de René Dépestre, ces mots qui occupent une place centrale dans son nouveau film Zombie Child, présenté il y a quelques semaines à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et en salle mercredi. L'histoire d'une rencontre entre deux histoires en fait, celle d'un homme en Haïti en 1962, revenu d'entre les morts, et celle d'une jeune fille possédée par l'esprit du garçon qu'elle aime, un film où se mêlent les époques, les lieux, mais aussi les vivants et les morts. Bonjour Bertrand Bonello.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Écoutez monde blanc, cette invitation, cette prière si forte, comment est-ce que vous l'entendez, vous ?
Comment je l'entends ? Enfin, en tout cas, j'avais très envie que les 4 jeunes filles en face de la jeune haïtienne l'entendent. Comment je l'entends, bah c'est un très beau cri. Enfin, et puis c'est un auteur que j'ai découvert en fait récemment, René Dépestre, en cherchant un poème que pourrait raconter la jeune fille quand elle fait son entrée dans la sororité. Et j'ai découvert d'autres textes de lui, notamment Adriana dans tous mes rêves.
Mais à quoi le monde blanc a-t-il été et demeure-t-il parfois sourd, Bertrand Bonello ? Parce que c'est ça que nous dit René Dépestre.
Il est peut-être sourd à sa mémoire, sourd dans le sens ne pas se souvenir aussi, ne pas vouloir entendre aussi l'histoire qu'il y a eu. Moi, je l'ai un petit peu entendu comme ça.
Cette mémoire de l'esclavage et de ses conséquences, cette réflexion sur l'histoire, évidemment, votre film s'en fait l'écho. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, je crois qu'au départ, vous n'aviez pas vraiment l'intention d'en parler. C'est venu petit à petit. Comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est passé, c'est étrange, hein, comment les idées viennent, qu'est-ce qui fait qu'un film et le film à la fin, c'est des longs cheminements. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de dire voilà ce que j'ai voulu faire. Mais en fait, je suis parti d'Haïti, en fait. Je suis parti de textes sur les zombies que j'avais lus il y a longtemps, notamment de Laennec Urbon. Et je suis parti de ce personnage qui est un zombie reconnu, c'est-à-dire quelqu'un déclaré mort, enterré, déterré, et jeté comme un corps comme ça au travail dans l'esclavage, qui s'échappe de son état de zombie, qui erre et qui revient. Voilà, je suis parti de cette histoire très très simple.
Et c'est passionnant, mais parce que c'est vrai, évidemment, qui sont-ils ces hommes et ces femmes, ces zombies ? Comment sont-ils devenus zombies ?
Alors c'est quelque chose qui est assez mystérieux parce que c'est un petit peu tabou. C'est vrai que quand on s'intéresse à Haïti, on s'intéresse assez vite. Enfin, on arrive assez vite au vaudou. Quand on s'intéresse au vaudou, on arrive un petit peu à ces histoires de zombies, mais autant le vaudou serait un aspect très très positif, autant la zombification serait l'aspect un peu sombre et un peu secret de tout ça.
Vous avez pu en rencontrer, vous avez pu...
Non, ils sont pas... Non, on en rencontre très très peu. Il y en a très peu qui sont revenus officiellement. Il y en a quelques-uns. Il n'y a pas que mon personnage, Clairbus Narcisse. Il y en a d'autres, plus anciens d'ailleurs. Mais voilà, c'est on zombifie par une sorte de poudre qui plonge en état de léthargie. Et on est enterré très très vite et déterré très très vite. Et en fait, on est arraché au monde. On est arraché au monde pour être projeté dans un autre monde qui n'est ni la vie ni la mort. C'est là où le zombie haïtien est différent du zombie occidental, qui lui est vraiment un mort. Il n'y a plus de place en enfer, il revient, etc. Là, on est dans un entre-deux, une sorte de limbe.
De quoi sont-ils l'incarnation, ces zombies en Haïti ? Qu'est-ce que leur existence nous dit à nous, les vivants ? Qu'est-ce qu'ils nous rappellent, peut-être ?
Ben, Mon idée du trajet du film, c'était de prendre cette figure très très connue du zombie, qu'on connaît tous, de le ramener à son origine, et par ce trajet quand même de faire une vraie évocation de l'esclavage. Donc je pense que ça nous rappelle ça, ça nous rappelle aussi l'esclavage.
C'est ce qu'il nous dit à nous les vivants, c'est ce qu'il nous rappelle aussi.
Aussi, oui.
Qu'est-ce que cette frontière très floue entre la vie et la mort, cette omniprésence de la mort dans la vie, en fait, à Haïti, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est l'endroit le plus bouleversant. Hein. C'est pour ça que le film, il est en effet entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort, il y a vraiment une sorte de limbe comme ça que moi qui me touche beaucoup.
Pourquoi?
Ah, parce que l'entre-deux, voilà, l'entre-deux, c'est toujours très... La complexité de l'entre-deux me touche, voilà.
Ça vous fait peur, la mort, vous ?
Pas encore. Ça va pas tarder. Hein.
Mais à quoi est-ce que vous l'avez ressenti, cette porosité entre la vie et la mort, lorsque vous êtes rendu en Haïti pour tourner ?
Alors, c'est vrai qu'en Haïti, notamment via le vaudou, le lien entre la vie et la mort est très très fluide. Nous, en Occident, et ça depuis les Grecs, on a fait une vraie coupure entre la vie et la mort.
Oui.
Là, ça circule. Cette circulation, bon, il n'y a pas qu'en Haïti, hein, y a beaucoup de pays africains, de cultures africaines qui fonctionnent sur ce modèle-là. Cette fluidité, elle nous est très très étrangère. Alors, j'ai aimé constater qu'elle existe, voilà.
C'était la première fois que vous tourniez à l'étranger, je crois.
C'est mon premier, oui, parce que même quand j'ai tourné mon premier film à Montréal, j'y vivais, donc c'était pas l'étranger. Ouais.
Alors quand on arrive en Haïti et qu'on décide de braquer sa caméra d'homme blanc, justement, sur une culture et des hommes qui n'ont jamais cessé de se battre contre ce regard-là, quelles questions philosophiques, quelles questions éthiques, cinématographiques aussi, est-ce qu'on se pose ?
Bon, on s'en pose plein, et surtout, je pense qu'il faut écouter. C'est-à-dire que tourner en Haïti, évidemment, est difficile pour plein de raisons, et peut-être que la plus grosse difficulté, au-delà des tensions qu'il y a dans le pays ou de la pauvreté ou des infrastructures défaillantes. En effet, c'est comment faire... Non, c'est même pas se faire accepter, mais faire accepter ce qu'on va vouloir montrer. Quand on arrive en disant, voilà, je vais faire un film sur les vaudous et les zombies, qui sont deux choses très très sensibles pour eux...
Et sombre, vous le disiez.
Et sombre, enfin voilà, c'est très 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 délicat. Donc en fait, il faut... prendre un peu de temps, écouter, et la question du point de vue, elle n'est pas juste narrative, elle est à tout endroit. C'est-à-dire même poser un cadre, poser une caméra, combien de temps le plan dure, ce sont des questions qui sont toujours importantes, mais qui là, le sont encore plus.
Justement, comment votre caméra a été perçue au tout début ?
On m'a clairement dit, hein, quand vous arrivez avec une caméra, c'est comme si vous veniez avec un fusil, et je comprends. C'est tout à fait légitime. C'est vrai que c'est un pays qui a été beaucoup diabolisé, notamment par les Américains, que notamment par l'image du vaudou, du zombie, etc. Donc voilà, il faut essayer de comprendre que on vient pas les coloniser avec le film, que le point de vue du film est avant tout français, mais qu'on vient invoquer et évoquer quelque chose d'assez important dont on a conscience via une histoire qui est celle-ci.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à vous entendre, votre caméra, au début, elle était perçue presque comme un outil de zombification.
Oh, ben, il y a de ça. Après, on peut faire une analogie aussi sur l'image de cinéma. Mais
justement.
L'image du cinéma, elle tue comme ça. Et après, elle ne fait que faire revivre un fantôme.
Vous voulez dire par là qu'elle a le pouvoir de transformer les vivants en morts vivants? L'image de cinéma
Oui, entre le mort-vivant et le fantôme, bien sûr.
Ça voudrait dire que votre film, il est aussi une réflexion sur le cinéma, un art qui se situe à la fois du côté de la vie et du côté de la mort, Bertrand Bonello.
Un jour, quelqu'un m'a dit que tous mes films ne parlaient que de cinéma. Alors, je vois sur certains, celui-là, je ne sais pas encore, il est un peu trop frais. Mais certainement, c'est un film qui s'amuse aussi à naviguer dans plein de mouvements de cinéma, en passant par le genre, un petit peu le documentaire, un peu l'ethnographie, revenir au genre. Donc rien que ça, c'est cette navigation, j'imagine que c'est aussi un peu une réflexion là-dessus, oui.
Et pour poser des questions sur la vie et sur la mort, dans quelle mesure vous rend-il vivant le cinéma, vous ?
Moi, il me rend vivant en fabriquant les choses. L'idée d'être... Il y a un endroit, évidemment, c'est très industriel, etc., mais il y a un endroit, c'est tellement du bricolage, tellement de l'artisanat, du bricolage, il y a un côté très enfantin. Et c'est à cet endroit-là qui me rend vivant, moi.
Dans cette action du jeu, en fait.
Totalement, ouais.
Celle qui n'est pas très vivante dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité lénifiante, barbante, complètement stone. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 6 juin ? P. Pégase à tous les étages. Le syndicat national du jeu vidéo a annoncé hier la création des Pégase, trophées annuels qui viendront récompenser le meilleur de la création française et internationale lors de la première cérémonie télévisée qui aura lieu en 2020. 19 prix seront attribués, dont ceux du meilleur jeu, du meilleur personnage et même de l'excellence narrative. Parce que les scénarios des jeux vidéo sont de plus en plus élaborés et comme l'écrit le SNJV, le jeu vidéo est au 21e siècle ce que le cinéma a été au 20e. Game is on.
Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le choix-pot sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons.
Lyon fait tourner les têtes. Le musée des confluences de la capitale des Gaules inaugure aujourd'hui le Monde en tête, grande exposition consacrée aux coiffes du monde. Tiare népalaise, calot iroquois, perruque de Papouasie, près de 500 couvre-chefs venant de la collection du passionné Antoine de Galbert ont été réunis pour proposer une plongée, la tête la première, dans un tour du monde des civilisations, des cultures, des usages du chapeau, le paradis d'Amélie Nothomb, somme toute.
C'est la base de notre humanité. Qu'on raconte des histoires, qu'on les raconte l'un à l'autre, qu'on se raconte l'histoire de sa vie.
Le romancier britannique Julian Barnes a reçu hier le prix Jean d'Ormesson 2019, créé en décembre 2017 après la disparition du délicieux écrivain et en hommage à son goût immodéré pour la lecture. Julian Barnes a été récompensé pour La seule histoire, bouleversant roman sur les cicatrices et les fantômes de la passion amoureuse entre un jeune homme et une femme plus âgée. Le livre paru en septembre est publié aux éditions du Mercure de France.
Je suis de la jungle, appelle-moi un mot-clé. Je le sème, je pas le semi. Je suis toujours solo comme Rémi. Trop gang, c'est la rue Rémi. Je suis du sale à cracher seul.
Et plus de peace, plus de lové. Quelques semaines seulement après la sortie de leur nouvel album, les deux frères de PNL sont de retour avec Mowgli 2, un titre inédit en écho à l'un de leurs morceaux de 2014 titré Mowgli, intégralement interprété en solo par Adamo. La chanson reprend les codes qui ont fait le succès du groupe, qui clourent lyrics darks, instru, mélancolique. En avril dernier, PNL n'avait mis que 5 jours à décrocher un disque de platine, puis 5 semaines pour le double platine QLF. Et le cinéaste Bertrand Bonello, invité de Boomerang ce matin pour Zombie Child en salle mercredi. L'histoire d'une rencontre entre deux adolescentes dans un pensionnat. En fait, l'une est haïtienne, l'un de ses ancêtres est zombie. C'est un film qui s'inscrit dans une économie particulière. Il faut le dire, au départ, vous ne saviez pas si vous alliez être capable de réaliser un film au budget moins conséquent que vos précédents, à savoir Saint-Laurent et Nocturama. Pourquoi ça vous semblait compliqué ?
Les deux derniers que j'ai faits étaient quand même assez chers, avec des mises en scène assez complexes. Et peut-être que, je sais pas, on prend goût parfois au luxe.
Vous dites c'est pas possible de faire plus petit.
Il est capable de revenir à des choses plus modestes. Quand je parle de modestie, c'est plutôt dans un sens assez positif. Hein. C'est un mot que j'aime beaucoup, la modestie. Mais il n'y a pas que le budget, en fait. C'est toute une manière de penser, de faire, etc. J'avais envie, je pense, d'abord d'un ailleurs géographique et puis d'une manière de faire différente. Donc là, j'ai pensé le film un peu, oui, de manière différente, en se disant... D'habitude, ce qu'on fait, beaucoup de versions de scénario, puis on finance pendant des mois, puis après on prépare, etc. Et là, j'ai eu envie d'essayer de tout faire en même temps.
Vous dites que vous étiez plus libre, paradoxalement.
Oui, ça fabrique une fluidité dans la pensée et donc forcément une liberté dont j'avais, je pense, un petit peu besoin. Oui.
C'est quand même intéressant, Bertrand Bonello, de vous entendre parler de la réalité économique du cinéma quand on réalise des films comme les vôtres. À quelles difficultés de financement est-ce qu'on se heurte ?
L'économie, elle est fondamentale dans la pensée du cinéma. Je veux dire, de tout temps, mais peut-être encore plus aujourd'hui où c'est difficile.
C'est plus difficile de réaliser des films aujourd'hui que dans les années 90.
Je pense. Mais après, l'économie, je la vois pas de manière. Enfin, la pensée sur l'économie, je la vois pas de manière négative. C'est-à-dire que il y a la mise en scène, il y a l'économie, c'est quasiment comme un champ contre champ. C'est-à-dire que l'un travaille avec l'autre. Et ce qu'il faut, c'est de trouver une espèce de cohérence.
Ça veut dire que c'est l'une des premières questions qu'on se pose quand on entre sur un projet de film.
En tout cas, moi, je me la pose. Oui, c'est-à-dire, c'est pas juste quel film je vais faire, mais comment je vais le faire. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question.
Quel sens est-ce que ça a, en fin de compte, pour vous, de continuer à réaliser des films ? Vous qui, par ailleurs, n'avez pas commencé par le cinéma, mais par la musique.
Je sais pas, parce que souvent, on dit « Ah, pourquoi vous faites du cinéma ?» etc. Et j'ai pas très envie de savoir, en fait. J'ai l'impression que si je résous la question, je vais arrêter. Mais c'est comme on dit « Pourquoi tu m'aimes ?» etc. Bon, faut pas toujours avoir les mots pour ça, quoi.
N'en parlez pas. Quand est-ce que vous avez compris la nécessité pour vous de faire du cinéma, alors, de fabriquer des images ?
En fait, la bascule, elle a été vraiment de la musique au cinéma. C'est vrai que j'étais un peu épuisé en musique, mais c'est vrai que c'était une autre époque. Il n'y avait pas encore les home studios. C'était, il y avait des, on passait par les majors, les 45 tours. C'est très, très compliqué et pas très sexy, en fait. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une sorte de territoire dans lequel on se dit, je vais pouvoir habiter dans ce territoire. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas.
Mais fallait bien qu'il vous attire quand même, le cinéma.
Oui, il m'a attiré. En fait, il m'a attiré assez rapidement. J'ai compris que c'était un territoire qu'on pouvait explorer très, très, très longtemps.
Ça vient d'où, ces premières images de cinéma qui vous ont tant marqué?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu un premier amour du cinéma qui était adolescent, qui était en vrai totalement le cinéma de genre. Le vidéoclub, la VHS, etc. Puis après, un rapport au cinéma beaucoup plus distant. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un film qui a été un peu déclencheur, qui est le Stranger Than Paradise de Jarmusch, où j'y ai vu à peu près ce que le rock m'amenait. Quoi. Je me suis dit, ah bah, on peut avoir les mêmes émotions, mais ailleurs.
En quoi vous a-t-elle préparé à devenir le cinéaste que vous êtes aujourd'hui, cette projection, ce premier visionnage en fait du film de Jarmusch?
C'est vraiment une histoire de territoire. Hein. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, bon, après, je parle de Jarmusch, mais Jarmusch m'a amené à Wenders, qui m'a amené à Antonioni, qui m'a amené à Pasolini, etc. Et tout d'un coup, on se dit, voilà, j'ai envie de traverser tout ça très longtemps.
Ce qui est intéressant, c'est que vous faites un film de zombies au même moment où Jim Jarmusch fait un film de zombies présenté à Cannes.
Oui. Alors là, on est vraiment dans des zombies très, très différents, mais c'est lui.
Enfin, l'origine du zombie, il est en Haïti.
L'origine du zombie, il est en Haïti, oui. Ouais. Et voilà.
Moi aussi, je veux que Pablo vienne en moi.
Non, tu confonds tout. Tu veux pas qu'il vienne en toi.
Si, je veux que Pablo vienne en moi.
Pablo n'est pas un esprit. On ne peut pas unir vos deux âmes. On ne peut pas appeler l'esprit d'un vivant dans un corps. Et puis tu m'avais dit que tu voulais tout oublier.
En fait, non, je veux vraiment qu'il vienne en moi. Je veux pas oublier. Je peux vous payer 1500 euros. Là, j'ai que 500, mais je peux vous donner le reste après.
Il faut pas prendre ça à la légère.
Louise Labeck et Katiana Milford dans Zombie Child, Bertrand Bonello, un dialogue entre votre jeune héroïne qui souffre d'avoir été éconduite par son amour de vacances et qui s'entretient avec la tante Mambo de sa nouvelle amie. Qu'est-ce que c'est une Mambo, tiens?
Une Mambo, c'est une prêtresse vaudou. L'équivalent masculin, c'est le Ougan.
Et quels sont les rituels d'une Mambo?
Ah, il y en a beaucoup, hein. C'est quelque chose qui, il faut être initié, etc. Enfin, il y a énormément de rituels. Il y a beaucoup d'esprits très différents. C'est du polythéisme, presque, hein, comme chez les Grecs.
Mais je vous pose la question parce que votre film ramène sans cesse à une dimension rituelle, quasi mystique, hein, qui contamine d'ailleurs, et c'est intéressant, tout votre cinéma, d'ailleurs. À quelle sorte de rituel se livre-t-on quand on réalise un film, Bertrand Bonello?
Quelle sorte de rituel? Bonne question. Alors moi, étant assez superstitieux, j'en ai quelques-uns, mais non, le rituel le plus important, je pense que c'est la préparation. Ça, c'est mon rituel à moi le plus important. Et trouver un moment pour être seul avec son film avant de ne plus jamais l'être, en fait.
Et là, par superstition, qu'est-ce que vous faites de ritualiser?
Oh, j'ai plein d'objets avec moi. J'en ai un par film.
Ah, c'est vrai?
Oui, oui.
Et quel était l'objet pour Zombie Child?
Alors, j'avais une espèce de collier que j'avais acheté en Haïti. Et j'avais une canne comme le Baron Samedi.
Qui ne vous quittait pas?
Qui ne me quittait pas, et je ne peux pas faire un plan si je ne l'ai pas.
Et pour Saint-Laurent?
Pour Saint-Laurent, j'avais comme Yves Saint-Laurent, il collectionnait des petits Y en bois qu'il ramassait dans la forêt. J'avais un petit Y en bois.
Dingue!
Ouais.
Ouais, vous voulez
c'est terrible, parce que si je le perds, je ne peux pas tourner. Enfin, c'est l'angoisse de mes assistants.
Enfin. Ils n'en ont pas en double?
Non.
Vous savez que moi, mais les gens qui travaillaient avec moi avaient dans l'idée d'avoir un autre chien pour pouvoir le mettre au cas où je perdais le mien.
C'est pas mal.
Ouais, c'était pas mal aussi. Il y a dans Zombie Child une scène particulièrement impressionnante, celle d'une sorte d'exorcisme où le corps de vos comédiennes possédées par un esprit vaudou entre en transe. Que nous raconte-t-il pour vous, ces corps possédés?
Après, tout le film parle de la possession. Hein. Moi, je m'en suis aperçu un petit peu après coup, mais évidemment, le voodoo en Haïti passe par la possession. Cette jeune fille française, elle est possédée par son amant, enfin son fantasme masculin. La possession, c'est aussi posséder l'autre. Donc, je veux dire, sur l'esclavage, on possède le corps des autres aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui traverse tout le film.
Se pourrait-il que le cinéma soit un art de l'envoûtement et de la possession des corps?
Bah, en tout cas, moi, comme spectateur, je sais que l'idée d'être envoûté et de partir quasiment possédé dans un... Alors, ça m'arrive pas souvent, il n'y a pas beaucoup de films qui produisent ce genre d'effet.
Quand est-ce que ça vous est arrivé?
Oh, la dernière fois, bah, Lynch produit ce genre d'effet. On se sent complètement possédé.
En transe.
En transe, ce n'est plus que du sensoriel, en fait.
Et ça vous arrive autre part qu'au cinéma?
Oui.
Vous le dites en rougissant. Mais moi, j'étais beaucoup plus naïf. Je me disais dans un stade de foot, tiens, ça vous arrive ou pas?
D'être possédé?
Ouais.
En transe. Non, mais je comprends à un moment. Oui, c'est vrai que le sport peut faire ça. C'est-à-dire, il y a un tel truc de l'instant présent. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est pas hier, c'est pas demain. Le replay ne fonctionne pas. C'est ça aussi la possession.
Oui, pourquoi je vous dis ça ou pas? Vous vous doutez, évidemment. Vous me voyez venir. Parce que vous avez choisi de clore votre film par ce titre qui me met en transe, moi. Et qui s'avère être un hymne de football. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. 1963, vous êtes sur France Inter avec Bertrand Bonello. Vous écoutez Boomerang et vous n'êtes pas seul.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on.
En vrai, on est quelque part entre Jacques et le haricot magique, Georges Bouillon sans sa potion et le petit Pousset. Avec son regard enfantin, ça avait son air à la fois timide et frondeur, son cheveu en bataille, de tous les combats, de tous les banquets, de toutes les fêtes. Aussi, il ne fait pourtant aucun doute que derrière cette réserve se cache un compteur hors pair de ceux qui vous font dresser le poil sur le bras, avec son petit pull bleu, ce matin sous un teddy comme on avait dans les années 90, le cinéaste Bertrand Bonello. Invité de Boomerang ce matin pour Zombie Child, on en parlait, ce film qui s'ouvre en l'occurrence sur une scène très étrange, la préparation minutieuse d'un poisson pour en extraire un poison, une scène filmée à la faible lueur des bougies, dans une obscurité presque totale. Et la question qui me vient, immédiate, vous me connaissez, si le cinéma c'est de la lumière, alors l'obscurité, quel sujet est-ce que c'est pour vous?
L'obscurité... Si le cinéma c'est de la lumière... Moi j'associe aussi le cinéma à l'obscurité, hein, peut-être parce qu'on rentre par l'obscurité. J'irai immédiatement vers la musique, parce que je pense que c'est l'obscurité, la musique se passe de mots, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, intouchable, indescriptible.
Mais comment on fait?
On peut décrire une image, par exemple. Si je vous montre une image, vous pouvez la décrire. Un son, une musique, c'est très compliqué à décrire.
Oui.
Donc voilà, c'est le côté plus mental et sombre.
Mais comment on fait pour la filmer, l'obscurité, tout simplement?
comment on fait pour filmer l'obscurité? Alors, je pense qu'il faut définir quand même, dans l'obscurité, quelles sont les choses qu'on veut qu'on aperçoive.
C'est-à-dire une irruption de la lumière à un moment donné.
Oui, le surgissement, la chose qu'on doit à peine percevoir, imaginer, pas entièrement.
Et qui fait événement, du coup, qui fait apparaître l'image. Et qu'est-ce qui fait pour vous la force d'une image de cinéma, tiens?
Alors, une image de cinéma, d'abord, on est envahi d'images. Donc voilà, c'est quand même la foi qu'une image de cinéma, c'est pas une image de plus, c'est une image à part. Donc il faut la penser comme une image à part.
La penser, en fait.
Un petit peu, la cadrer, la penser, c'est pas une image de plus, c'est pas. Et puis, évidemment, elle est très très liée à l'image qui vient avant et l'image qui vient après.
Mais c'est vrai que je vous ai parfois entendu parler, Bertrand Bonello, d'une idée du plan. Et dire qu'aujourd'hui, l'idée du plan, qui était pourtant le cœur battant du cinéma, ne parlait plus vraiment aux spectateurs. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
C'est pas forcément négatif, hein. Enfin, ça l'est souvent. Mais par exemple, si on pense à un cinéaste comme Kechiche, qui a fait exploser l'idée du plan classique, et pour refabriquer une énergie de cinéma et un rapport au cinéma vraiment, vraiment dingue et assez unique, voilà. Ça, mais ce sont des exemples très rares. C'est vrai que l'idée du plan, elle a souvent disparu au profit du rien.
C'est ça. Ça voudrait dire que le sens des images de cinéma en est appauvri. Quand même. Que les images de cinéma signifient de moins en moins.
Mais parce qu'elles se mélangent aux images de tout le reste. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même garder en tête qu'une image de cinéma, ça n'est pas une image comme les autres, c'est pas une image de plus, c'est une image à part.
Et alors comment lui redonner du sens, justement? Comment en faire une image à part?
Je pense qu'il faut lui donner du sentiment.
Du sentiment?
Oui, je crois. Et dans ce sens-là, je veux dire, c'est pas le sentiment du personnage ou c'est pas le sentiment du scénario, mais je pense que quand on pense à son plan, il faut vraiment penser à quel sentiment je veux mettre dans ce plan. Mais c'est peut-être que ça, la mise en scène. Hein.
Par exemple, cette première image de poisson-poison, quel sentiment est-ce que vous avez voulu y mettre?
Oh là, c'est la préparation de la poudre de zombie en quatre plans. Voilà, c'est peut-être le passage un peu hommage à Robert Bresson. C'est-à-dire qu'on est sur les gestes, c'est des rapports de plans en fait. C'est le sentiment, c'était évidemment il y a le mystère, l'obscurité et le petit trajet.
C'est une question, en tout cas, à mon avis, qui aurait beaucoup plu au philosophe Gilles Deleuze, dont vous avez choisi ce matin de nous faire entendre la voix. C'était en 1987 et il était question dans cette conférence de création.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Et en poser à vous, et en poser à moi-même. Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela? Alors bien sûr, ça va mal chez vous, mais ça va très mal aussi chez moi. Et c'est pas seulement ça qu'on aurait à se dire. Ou bien, je pourrais poser la question autrement. Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée?
C'était émouvant, Gilles Deleuze, en 1987, lors de cette conférence donnée dans le cadre des Mardis de la Fondation Fémis, et qui nous pose une question à laquelle vous allez vous faire une joie de répondre, Bertrand Bonello. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une idée?
Mais je ne vais absolument pas répondre, parce que je n'ai pas la réponse. C'est la chose à la fois la plus mystérieuse et vraiment la plus belle au monde pour moi. C'est-à-dire que quand on a le sentiment d'avoir une idée, on se sent proche du ciel. Enfin, il y a une plénitude, un truc assez dingue qui vous envahit. Ça arrive pas tous les jours, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'une idée, par exemple, on est traversé d'idées tous les jours. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui dure suffisamment longtemps pour que ça devienne un film? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a la certitude que le prochain film, ça va être ça? C'est hyper mystérieux. Mais c'est passionnant, hein.
J'ai l'impression, à vous entendre ce matin, que le cinéma pour vous est une expérience indissociable du mystère, du doute et de l'interrogation.
Ah, complètement, ouais. Ouais. C'est tout sauf la certitude.
C'est un lieu d'expression de la beauté, quand même.
On y travaille, hein. Il faut être soi-même traversé par quelque chose pour essayer que les autres soient traversés aussi. Mais ce truc de l'idée qui arrive comme ça, c'est magique.
Peut-être que l'idée, c'est la beauté, non?
Bah, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui remplit et qui oui, c'est la beauté. Oui, oui.
Où est-ce que vous la trouvez?
C'est la grâce, en fait, voilà.
La grâce.
Ouais.
Ça, c'est mystique.
Ben, oui, mais oui, probablement. Mais il faut un peu de mysticisme, je pense, quand on fait des films. Hein.
Ben, vous...
Mais ça arrive rarement. Hein.
Où est-ce que vous la trouvez, la grâce, vous?
On la cherche. Hein. C'est vrai que des fois, ça coûte un petit peu. On la trouve dans des moments souvent très, très vides, souvent assez seuls. Parfois avec l'autre, mais pareil, c'est assez rare. La musique aussi. La musique, oui, oui.
Quand on a écouté, par exemple, Jerry and the Pacemakers tout à l'heure.
Ça, c'est quelque chose de, c'est un morceau, bon, qui remplit, en effet, le cœur des supporters de Liverpool, mais pas que. Moi, j'ai choisi ce morceau parce qu'en fait, c'est incroyable à quel point il parle du film. Tu ne marcheras jamais seul. C'est un homme qui marche seul pendant 15 ans et en fait, on lui dit, voilà, il y a la lumière au bout.
Vous aussi, vous en avez une lumière au bout, si ça se trouve, Bertrand
Morello. Peut-être, peut-être. Des fois, j'aperçois un petit peu.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Zombie Child, avec Louise Labeck, Wislanda Louis-Matt, Katiana Milford, Mackenzie Bijou, entre autres, sort mercredi. C'est un film absolument surprenant et envoûtant, pour le coup, tout de suite. Les médias, Sonia Devillard, juste après, un petit clin d'œil quand même à votre film, où il est omniprésent, ce damso humain.
Ils quand ils l'ont jamais vraiment été. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité. Des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter. Les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnels sont les générosités pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit immigré, se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps. C'est des gens, je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con, serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton, voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en, car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître.